bonsoir et bienvenue sur Radio G101.5. C'est un nouveau numéro de Quasar On The Air qui commence. On souhaite que vous avez passé un bon mois. Stéphane Corbin pour vous accompagner pendant une heure, de 20h à 21h. Il y a 15 jours, nous n'avons pas pu nous rendre disponibles, mais c'est avec plaisir que je vous retrouve là, maintenant, aujourd'hui, en ce 9 novembre, pour ce Quasar On The Air numéro 4 de la saison 2023-2024. Alors, au menu de cette nouvelle émission, eh bien, nous allons faire le tour des centres LGBTI+, de France et de Navarre, plutôt de France cette fois-ci, puisque nous n'allons pas descendre vers le Pays Basque, mais nous allons aller plutôt du côté de Poitiers, de Laval et de Montpellier pour découvrir des centres que vous ne connaissez peut-être pas et des camarades avec Marianne, Léa et Olivier qui vont venir nous présenter leurs activités et comment ils font, qu'est-ce qu'ils vivent, quelles sont les facilités, les difficultés. Enfin, tout ça, c'est jusqu'à 21h et on a largement le temps de pouvoir papoter avec eux. Et voici Mika, c'est la vie.
C'est quoi le beau, c'est quoi le laid, c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai? Qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant, c'est quoi la pluie, quoi le beau temps, c'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ce rite sur mon visage, pourquoi elles viennent cafeter mon âge, même si vieillir est un naufrage? C'est quoi ces fleurs et son amour, mes frères et sœurs et leur cœur lourd, placard fermé à double tour? Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie. C'est son jasmin, c'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour. Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse, fleurisse encore. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie. Regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit dans. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie.
C'était Mika, la vie belle. À Allez, une fois n'est pas coutume, on bouscule un peu nos habitudes et ça nous fait du bien aussi. On va accueillir tout de suite notre première invitée et puis nous ferons l'agenda, bien évidemment, après. N'ayez aucune crainte. Et au téléphone, eh bien, nous sommes rejoints par Marianne Souchon, qui est la présidente de l'association, du centre LGBT du Poitou. Bonsoir Marianne.
Bonsoir Stéphane.
Heureux de se parler parce que c'est la première fois. Alors on va tout dire, on se connaît mais depuis peu finalement, puisque le centre du Poitou, LGBT du Poitou, a rejoint la fédération LGBTI à la fin du mois d'août lors des dernières rencontres qui se sont déroulées. Vous aviez déposé votre candidature et tout le monde, d'un seul homme et d'une seule femme, a voté favorablement à votre intégration. On est heureux de vous accueillir. Alors le centre du Poitou, ça existe depuis quand exactement, et c'est situé où?
Alors, le centre existe depuis 5 ans maintenant. C'est une émanation d'un collectif de personnes au départ et d'associations qui portaient la marche des fiertés et un festival depuis déjà 3 ou 4 ans avant que le centre se crée. Et il y a eu besoin de créer un centre pour coordonner un petit peu tout ça, notamment vis-à-vis des institutionnels. Donc, on n'a pas de local, c'est-à-dire qu'on est situé nulle part. On assure une permanence mensuelle à Poitiers et depuis cette année, un café LGBT+ à Châtellerault. Mmh. C'est-à-dire qu'on couvre les deux principales villes de la Vienne. Voilà. Et puis par ailleurs, on a une page Facebook à partir de laquelle on est sollicité régulièrement pour de l'aide ponctuelle, des choses comme ça.
Est-ce que vous avez un site?
Alors on a un site web.
Ouais. Voilà. Et on peut donner l'adresse peut-être?
Très actif. Oui, centre LGBTI du Poitou.org.
J'ai oublié le i. Quelle faute.
C'est ça.
Vraiment pas pardonnable. LGBTI du
Poitou. C'est le centre LGBTI du Poitou.
Bon, on rappelle, hein, pour celles et ceux qui nous rejoindraient ou découvriraient là ce soir pour ce quasar en hier, l'acronyme LGBTI signifiant lesbienne, gay, bi, trans et intersexe.
Voilà. Intersexe.
Voilà, exactement. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes nombreux au sein d'actifs ou d'actives?
Alors, d'actifs et d'actives, on est une dizaine de personnes. Il faut savoir que le centre a une structure un petit peu particulière dans la mesure où une grande partie de ses membres sont des membres d'associations. Mmh. Les associations, c'est Contact Vienne, David et Jonathan et Randos Poitou. Et donc tous les adhérents de ces associations qui le souhaitent, en signant la charte du centre, deviennent membres du centre.
D'accord.
Et puis après, il y a des gens qui nous rejoignent à titre individuel. Et elle le souhaite.
C'est-à-dire que comme beaucoup de centres, vous êtes à la fois avec des adhérents, personnes individuelles et des personnes morales, dites associations.
C'est ça. Mais là, à la base, c'est quand même un centre plutôt d'association.
Voilà, c'est un collectif d'associations. Et voilà,
c'est un collectif d'associations qui s'est créé, qui s'est monté en centre.
Et c'est vrai que les centres ont toujours eu aussi comme principale, première intention, c'est de rendre de la visibilité aux associations, de pouvoir avoir plus de punch, de force en se regroupant.
C'est ça. Et l'idée, c'est que en fonction des demandes dont on est saisi, on réoriente le plus possible et le plus souvent possible vers les associations
qui ont l'activité correspondante. Effectivement.
Dans l'activité qui correspond le mieux, qui colle le mieux avec la demande formulé.
Est-ce que toi, en démarrant, là, en étant la présidente du centre LGBTI du Poitou, tu avais une expérience associative auparavant, avant d'arriver à Poitiers même?
Alors, moi, j'avais une expérience à l'APGL, qui est l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, parce que je vivais en région parisienne, avant les années 2000, on va dire.
Oui.
Donc j'avais une expérience où j'étais plutôt intéressée sur les aspects recherche universitaire, c'est-à-dire qu'on a lancé, tant où j'y étais si je puis dire, une recherche pour développer, enfin une initiative pour développer la recherche universitaire sur ce qui est devenu ensuite l'homoparentalité.
D'accord.
Parce qu'en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'existait rien dans le champ de la recherche française, que ce soit en sociologie, en psychologie. Et faut se rappeler, et j'aime bien le rappeler que à cette époque-là, un thésard, un doctorant qui commençait une thèse sur un sujet lié à l'homosexualité, à l'homoparentalité, on parlait pas de transidentité à l'époque ou très très peu, il était très très mal vu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit concerné, on présupposait qu'il était concerné, et ensuite sa carrière était quand même largement empêchée par ce choix de sujet de thèse. Et donc la démarche, ça a consisté à contacter notamment des directeurs de labo qui ensuite, eux, ont mis des thésards qui les ont rendus plus légitimes.
Entendu.
Donc ça, en termes de visibilité, c'était intéressant.
Donc une expérience voilà. Tout de même associative et là, pour le coup, nationale sur un sujet qui, à l'époque, était très discuté, hein, puisqu'on était, dans ces années-là, c'était vraiment très très fortement le sujet.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis arrivé à la PGL, il y avait 100 personnes. Quand j'en suis parti 4 ou 5 ans plus tard, il y avait plus de 1500 personnes.
Bah oui, évidemment, puisque l'homoparentalité, les désirs d'enfants étaient vraiment exprimés et sociétalement, il était possible d'en parler et de bien pouvoir effectivement argumenter sur ces réalités-là. Et le droit à l'époque n'était pas celui qu'on connaît, même si encore, pour notamment les couples de femmes, les lesbiennes, l'affiliation, c'est vraiment pas ça du tout encore avec la PMA, hein, loin s'en faut, avec la démarche. En tout cas, c'est pas, il n'y a pas une présomption
de le mariage, voilà.
Voilà, effectivement, et pas que.
Même si le mariage a simplifié quand même un petit peu des...
Voilà.
Des choses, même du point de vue de l'affiliation.
Oui, mais la PMA pour les couples de femmes reste encore compliquée et beaucoup aujourd'hui restent à la porte de la loi sur la PMA en raison de cette obligation de déclaration chez le notaire et qui parfois entame une grossesse sans avoir fait le document avant et c'est très bloquant pour avoir droit à toute l'ampleur et l'amplitude de la loi. Alors, ça, ce sont les années concernant la PGL. Maintenant, le centre LGBTI du Poitou, je suppose que c'est une zone de chalandise, effectivement, comme tu l'exprimais, beaucoup plus locale, départementale. Comment est-ce que finalement vous avez, avec l'histoire des associations, réussi à vous implanter, à être reconnu? Alors, tu nous disais que vous n'avez pas de local. C'est une volonté véritable ou c'est un subi?
Alors, pour l'instant, c'est un choix délibéré.
Ah.
Parce qu'on manque un petit peu de ressources humaines.
Oui.
D'une part, et donc faire tourner un local, ça suppose d'avoir des gens qui sont présents. Là, nous, pour l'instant, on assure assez facilement une permanence mensuelle, mais si on devait passer à une permanence hebdomadaire, d'abord, je ne sais pas si on aurait des gens régulièrement.
Mm-hmm.
Mais voilà. Mais après, il faudrait trouver des bénévoles régulièrement. Et on préfère concentrer notre énergie disponible à d'autres actions de lutte contre les discriminations sur lesquelles je vais revenir.
Oui.
Et par ailleurs, il s'avère que Poitiers, c'est une ville qui, pour l'instant, est relativement friendly. Donc, on n'a pas de problème pour trouver des salles de réunion ou pour accueillir des personnes. Donc, finalement, comme ça, en termes logistiques, ça se passe assez bien. On préfère, pour l'instant, garder ce choix-là et se concentrer sur d'autres actions.
D'accord.
En fonction des forces disponibles.
Et alors, les actions qui sont les vôtres, c'est quel domaine à peu près?
Alors, je vais parler de. On fait plusieurs choses. On passe relativement du temps dans les relations avec les institutionnels. C'est-à-dire qu'on a par exemple des partenariats informels avec le commissariat de police de Poitiers.
Mmh.
Où, quand quelqu'un veut venir porter plainte, on l'incite à nous solliciter en amont. Nous, ensuite, on a un contact direct avec le commissariat et on s'assure du coup de ce fait que la personne sera reçue dans les meilleures conditions possibles.
Est-ce que ça veut dire que vous avez un contact avec un référent dit LGBT au sein même du commissariat?
Alors oui, on a un contact direct. Alors quand il est arrivé, il faut savoir qu'on a rencontré le commissaire qui était son supérieur hiérarchique, qui nous a dit clairement, on m'a demandé de nommer un référent LGBT, je l'ai nommé parce qu'il fallait mettre un nom dans l'organigramme. Bon.
Moi c'est clair.
Oui, c'était très clair, c'était très... En même temps, c'est des gens qui sont très bienveillants.
Oui. Non, mais c'est mieux de démarrer comme ça que d'avoir des personnes réellement homophobes en face ou transphobes, ça c'est sûr.
Hein, c'est ça.
On est
donc,
bien d'accord.
Donc on a eu une première expérience qui a été plutôt bonne. En plein confinement, on a reçu un message par Messenger un vendredi du confinement, pour donner une idée. Donc tout de suite, on a alerté le commissariat qui nous a répondu le samedi dans la matinée en disant la personne a déjà porté plainte. Enfin, voilà, ça a été très très, très réactif. On a ensuite une deuxième expérience qui a été moins favorable. Et là, on a redemandé un rendez-vous. On est retourné discuter pour mettre
les choses à plat. Pour caler les choses.
Pour dire que, voilà. Et pour dire que finalement, et donc depuis, on a eu encore deux expériences qui se sont avérées plutôt positives. Donc, les personnes qui ont porté plainte dans de bonnes conditions. Ouais. Voilà. Ce qui était, nous, notre objectif. Donc, ça, c'était avec la police. On est en train de développer la même chose avec la gendarmerie. Mmh. On a fait une sensibilisation des experts vifs. Alors, les experts vifs, c'est les experts violences intrafamiliales. Donc, ce sont des gendarmes dont le métier principalement est d'entendre les victimes. Mmh. Et donc, notre idée, c'était de les sensibiliser aux problématiques LGBT, notamment à l'homophobie et la transphobie intériorisées qui font que ce sont des publics un petit peu fragiles au départ, en fait, qui ont besoin de se sentir en confiance au moment de dire qui ils ou elles sont. Et donc, on a fait cette sensibilisation avec l'idée que maintenant, alors c'est récent, hein, ça date d'il y a un mois, quand on aura une identification de plainte à aller déposer en gendarmerie, puisqu'on est en zone rurale et donc il y a beaucoup de gendarmerie, on a un contact pareil qui va pouvoir relayer dans les différentes dans la brigade concernée pour qu'on s'assure que la personne soit bien reçue.
Alors comme le temps tourne très vite et qu'il nous écoute, mais c'est un bon signe. Intervention milieu scolaire pour le centre LGBTI du Poitou.
Pour l'instant, non. On est en train de former des gens.
D'accord, oui, effectivement, il faut passer par la classe.
On est en train de former des gens. Voilà. Alors, par contre, on a trouvé un biais pour pouvoir un peu intervenir vis-à-vis de ce public, qui est de proposer des ciné-débats en zone rurale.
Donc, et effectivement, ça aide énormément.
Voilà. Donc l'idée, c'est on propose une séance de cinéma le soir, tout public. Alors, on projette comme Big Out pour que ce soit très, très neutre et avec l'idée que ce qu'on veut, c'est que ça libère la parole dans les familles.
C'est ça, oui.
Et on propose au collège ou au lycée une séance l'après-midi pour les communes qui le souhaitent. Et en même temps, on a une expo qui s'appelle l'expo La Routine Arc-en-Ciel, qui est une expo qui a été au départ portée par la région Nouvelle-Aquitaine et donc le Gyrophare de Bordeaux, donc le centre LGBT de Bordeaux. Mmh. Et cette exposition, elle est disponible dans les médiathèques en même temps que le ciné-débat. Fait, localement, fait qu'on a une espèce de quinzaine un peu marquée LGBT.
Très bien.
La médiathèque fait en général une table dédiée. Voilà. Donc, en fait, on ne fait pas d'intervention en milieu scolaire en termes classiques parce que le territoire est étendu et parce qu'on manque de gens formés.
Mais
du coup, on essaie de compenser.
Mais c'est une bonne solution, finalement. C'est de pouvoir parer, de pallier la situation telle qu'elle est et de trouver des solutions. Bien, merci beaucoup, Marianne. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de repapoter dans l'émission un de ces jours sur une thématique peut-être plus précise. Mais avec plaisir.
Une précision, on a un Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie actualité est sur le Facebook et on est joignable par Messenger, du coup, si les gens ont besoin.
Voilà. Centre LGBTI du Poitou. Merci, Marianne.
LGBTI du Poitou. Merci beaucoup.
Ciao.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Allez, très vite, puisque nous sommes ensemble, eh bien, c'est d'ouvrir l'agenda, c'est-à-dire les différents rendez-vous que le centre LGBTI plus d'Angers, Quasar, vous propose. Demain soir, c'est la soirée anniversaire des 30 ans, avec un vernissage d'exposition dans les locaux même de Quasar. Vous êtes invités à 19h. Et puis, vous notez tout de suite sur vos tablettes, le mercredi 22 à 20h, c'est une soirée spectacle. Une soirée et deux spectacles, même à la salle Claude Chabrol, 9 rue de Prunier à Angers, du côté de Belbeil, avec un spectacle musical d'abord The Last Drag Show, dont on avait parlé ici même. même et avec son sous-titre « Et si c'était la dernière fois » par la compagnie Broadway French. Et puis, ça sera suivi d'un show drag en même temps, après un entracte, spécial 30 ans avec les Disgust, Chlamydia, Sun, Fragile de France et Mama Queen le mercredi 22 à 20h. Le week-end prochain, eh bien, c'est-à-dire samedi, ça sera le cours de français à 10h. La permanence jeune 15-25, elle se déroulera à 15h et la permanence hebdo à 17h. Vous notez dimanche 12 novembre à 14h30 dans les locaux de Quasar, 15 rue de Jérusalem. Et c'est l'après-midi jeu pour celles et ceux qui veulent jouer aux cartes ou à d'autres jeux de plateau. Lundi 13 à 18h30, vous notez la réunion Prépa Pride pour l'édition 2024, la deuxième, à la Bourse du Travail Place Saint-Bac à Angers. Le mercredi 15 à 17h, c'est la permanence juridique. Si vous rencontrez des discriminations, si vous faites l'objet de violences, eh bien vous venez nous raconter tout cela et on trouve des solutions et nous vous aidons. Le vendredi 17, le Quasar participe et intervient sur le droit d'asile aux deux journées de formation du RAVAD à Paris, le réseau d'assistance aux victimes d'agressions et de discrimination, vendredi 17 et samedi 18. Vendredi 17 toujours à 20h, mais cette fois-ci à Quasar et plus à Paris. À partir de 20h, c'est la soirée conviviale. On vient grignoter un plat, on partage, on amène de quoi partager avec ses voisins, voisines et inversement. Le samedi 18, cours de français à 10h. Attention, notez bien, sur inscription, à 14h, la visite de la galerie d'art pour les demandeuses et demandeurs d'asile. À 15h, c'est Transat, le groupe d'échange et de parole transgenre pour les personnes et par les personnes transgenres, à genre, non-binaire ou en questionnement. Et à 17h, la permanence hebdo. Lundi 20, c'est la journée spéciale internationale du souvenir trans. Rendez-vous pour ce Tidor à 19h sur les marches de la mairie, boulevard de la Résistance et de la Déportation à Angers. Jeudi 23, 20h, un nouveau rendez-vous sur ces mêmes ondes de 101.5 de Quasar Anzière. Et le samedi 25, à 16h, eh bien, c'est aussi devant la mairie, la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes avec une manif qui va bien au teint. Et puis ce 25 toujours, à 10h les cours de français. Attention, la permanence des jeunes 15-25 ans est annoncée, est avancée aussi à 10h pour pouvoir participer à la manif à 16h. Et à 17h, la permanence hebdo. Et enfin, vous terminez pour que tout soit clair avec le mercredi 29, une journée spéciale, une soirée spéciale avec une rencontre bi et pan avec l'association Bicause, avec la projection d'un documentaire, avec discussion et surtout présentation du rapport d'enquête sur la biphobie et la panphobie. Allez, on se pose avec Anony and the Johnsons. Must change. It must change. It must change. It must change. When you talk to me, must change. You do to me.
That's why this is so sad.
Johnson, vous vous souvenez, c'était un coup de foudre, vraiment, coup de foudre et grand plaisir de la playlist de l'été. Quasar on the Air, l'émission de radio, tout, pas tous les jeudis, mais une fois sur deux en semaine, en mois, pardon, le jeudi, entre 20h et 21h, sur 101.5, Radio G, Quasar on the Air, une émission presque aussi vieille, pas tout à fait quand même, que l'association qui a 30 ans maintenant. Alors, une personne nouvelle que nous accueillons, nouvelle invitée, bonsoir Léa, Léa Louvrier, qui est administratrice de la Gomme 53. Bonsoir Léa.
Bonsoir Stéphane, merci beaucoup pour l'invitation.
Mais c'est avec plaisir. Alors on est presque en voisin là. C'est un peu plus près que Poitiers. Évidemment, en tout cas on reste dans les Pays de la Loire, c'est une chose assurée. Et on parle de la Gomme 53 pour découvrir un peu vos activités, qui vous êtes et vous existez depuis combien de temps en tant qu'association?
Alors donc la Gomme 53 a été fondée en 2012, donc voilà, donc on va arriver sur nos 12 ans d'existence.
Ouais.
Donc voilà, donc nous sommes donc le centre LGBTQIA+ de la Mayenne, c'est-à-dire que nos actions sont portées dans tout le département de la Mayenne. Et nous avons notre permanence tous les mardis, donc généralement de 17h à 21h, donc des fois les horaires peuvent changer en fonction de la disponibilité des bénévoles, mais bon, souvent c'est de 17h à 21h.
Et on se pose toujours la question, pourquoi dans une association c'est tel jour, dans une autre ça a été une habitude, ça a été comme...
Alors oui. Alors en fait tout simplement donc les deux fondateurs donc à l'époque c'était Philippe et Julien, voilà, les deux fondateurs de la Gomme 53 avaient réussi à demander à leur employeur d'avoir le mardi après-midi de libérer.
Voilà.
Et donc depuis presque 12 ans, voilà, donc c'est resté la tradition du mardi plutôt fin d'après-midi début de soirée que mardi après-midi toute la journée.
D'accord.
Voilà.
Bon, depuis, Julien et Philippe ont poursuivi, effectivement, mais c'est une nouvelle équipe qui est en place, là,
absolument.
53. Oui. Et Julien est parti au soleil, et Philippe est dans les parages, voilà, tout ça. Et on les embrasse en même temps, on en profite.
Absolument, on les embrasse, on les aime tous très fort. vraiment, à la Gomme 53, on les vénère, il n'y a aucun problème, ça c'est sûr.
Et bientôt les statues. Bref.
Voilà.
Donc, permanence le mardi, et puis dans les différentes activités qui sont les vôtres, qu'est-ce que vous avez mis à votre panel,
donc On en a plein. Alors moi, je trouve, on en a plein d'activités. Mmh. Alors donc notamment, il y a une fois par mois, le dernier dimanche du mois, il y a questions en tout genre. C'est-à-dire qu'il y a une permanence dédiée aux questions de transidentité.
Oui.
Donc tout le monde, bien évidemment, est le bienvenu, hein, peu importe son orientation ou son identité de genre. Mmh. Mais le sujet des discussions, la thématique, c'est vraiment la transidentité. Mmh. Après, donc, une fois par mois, nous avons la gomme en barre, c'est-à-dire que parfois, pour certaines personnes, pas forcément pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il peut paraître compliqué, pour diverses raisons, de pousser la porte du centre LGBT qu'il y a plus de la Mayenne, donc le local, la gomme 53. Et donc, nous demandons à des bars, donc de Laval, mais aussi de Mayenne, de la ville, pardon, de Mayenne. Mmh. Nous avons comme projet donc aussi Château-Gontier et Évron, donc pour bouger un petit peu en Mayenne, pour pas rester non plus que à Laval. Donc nous demandons à un bar de nous héberger pendant une soirée et d'avoir des consommations à prix très sympathiques quand
D'accord.
on vient de la part de la Com 53. Et en effet, il y a des gens qui sont plus à l'aise à venir nous voir en dehors du local. Et donc, ça permet de voir de nouvelles têtes.
Ben voilà, d'en profiter.
Absolument. Ah oui, et puis de s'amuser toujours dans un esprit de convivialité, de bienveillance, dans l'espoir, dans l'intention que la communauté en fait se sente bien intégrée, etc. Quoi. Donc il y a aussi donc une fois tous les deux mois le jeudi soir il y a le café lecture, c'est-à-dire que nous avons deux bénévoles qui sont bibliothécaires de profession et qui nous donnent un petit peu de leur temps en sélectionnant donc des ouvrages sur les thématiques donc LGBTQIA+, et il y a vraiment toutes sortes d'ouvrages. Ça peut être vraiment de la littérature pure et dure, vraiment quelque chose de tronçu, des pavés, tout comme des choses un peu plus peut-être qui font moins peur de prime abord, comme des BD, des mangas ou des magazines, etc. Mais tout ce qui touche l'aspect littéraire, mais sous toutes ses formes. Et donc c'est le café lecture est animé par Béa et Pierre, qui sont bibliothécaires de formation, et c'est vraiment un événement qui est aussi extrêmement suivi.
D'accord.
Voilà. Et donc là, c'est quand on ouvre entre guillemets, quand on s'ouvre au public, mais aussi les bénévoles. Je vais dire nous, parce que j'en fais partie. Nous faisons donc des IMS, des interventions en milieu scolaire.
Oui.
Nous intervenons donc pour faire de la prévention. Nous intervenons également dans des écoles d'infirmières et d'aides-soignants.
Mmh.
Voilà, pour donc justement sensibiliser aux thématiques LGBTQIA+. Et aussi, nous recevons sur rendez-vous toute personne qui en fait la demande. Ça peut être, par exemple, des parents d'une personne LGBTQIA+, ou par exemple, une personne qui pense, et souvent c'est le cas, à avoir été victime d'homophobie. Comment on peut aider cette personne? Voilà, comment, par exemple, je pense à un cas qu'on a eu où il y avait quelqu'un qui a pas été très bien reçu par un médecin.
Mmh.
Donc on a pu prendre contact avec le médecin, lui, toujours dans un esprit de prévention et de bienveillance, hein, jamais avec un doigt réprobateur et accusateur, en disant peut-être que vous ne connaissez pas certains usages de la communauté, donc c'est pour ça que nous vous disons peut-être éviter les pronoms et éviter ça. Voilà, en fait, on quand on prend contact avec des gens, c'est jamais frontal, c'est pas dans le but justement d'accuser, c'est vraiment dans le but de former, de prévenir et de conseiller. Mais nous pouvons aussi, et ça on l'a déjà fait par le passé, se porter partie civile quand il faut.
Alors, on rappelle ce que ça signifie, se constituer partie civile, c'est-à-dire d'être à côté des victimes qui en font la demande. Il y a trois conditions juridiques, c'est d'avoir une association qui existe depuis plus de 5 ans et qui, depuis plus de 5 ans aussi, il y a dans ses statuts le fait de lutter contre les discriminations. Et troisième chose absolument impérieuse, c'est d'avoir un document signé de la victime qui demande à l'association de se constituer à ses côtés. Et c'est en règle générale une tâche importante, parce qu'au-delà de la victime, de son conseil, de l'avocat ou de l'avocate qui plaide pour sa cliente ou son client, c'est aussi de dire l'état de l'homophobie ou de la transphobie selon les cas et les affaires dans la société en général, et de rappeler l'importance d'avoir une politique de lutte contre les discriminations, y compris au niveau des condamnations, et des condamnations utiles pour l'essentiel. Tout dépend de la gravité, effectivement, mais c'est pas tant la prison qui est demandée, mais c'est qu'il y a vraiment une réelle prise de conscience. Donc voilà, IMS, travail juridique, et quand vous avez des victimes, qu'est-ce que vous faites? Vous les aiguillez vers des avocats, avocates? Vous traitez vous-même les dossiers? Comment est-ce que vous vous y prenez?
Alors c'est vrai que ça dépend, enfin c'est vraiment du cas par cas. Alors c'est vrai que nous avons à l'association donc un répertoire avec des professionnels justement de toute branche professionnelle, hein, ça va du notaire au médecin au psychologue au psychiatre, voilà, qui sont entre guillemets safe, c'est-à-dire que vraiment qui nous ont été recommandés par des personnes LGBTQIA+, qui sont reconnues comme telles ou qui se sont eux-mêmes exprimés comme étant LGBT friendly, donc c'est-à-dire je sais pas si je dois trop dire LGBT friendly, donc vraiment garantie qu'il n'y aura pas de discrimination envers les personnes. Et donc là, à partir de ce moment-là, en fonction de ce que souhaite la personne, en fonction des faits aussi, mais surtout du souhait de la personne, on parle vraiment justement, la bienveillance est toujours maître mot à la GOM 53, ça va en fonction de, voilà, il y a d'abord de l'écoute, l'écoute des victimes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous, en tant que bénévoles et associations, on peut faire, et surtout qu'est-ce que souhaiterait la victime pour se sentir à l'aise, pour pas que ça recommence, donc notamment, je prends encore un autre exemple. Il y a quelqu'un qui avait l'impression d'être discriminé à son travail. Et ben donc on a fait une intervention sur le lieu de travail de la personne. Des choses comme ça, par exemple.
D'accord. En fait, c'est vraiment à la demande et dans les situations qui se présentent. Ouais. Politiquement, comment est-ce que ça se situe pour vous, dans le sens où quelles aident des différentes femmes, hommes, politiques et institutions, collectivités locales?
Alors, c'est vrai que nous avons un très très grand soutien de la part de la mairie de Laval. C'est vrai que la mairie de Laval nous met à disposition un local et nous donne des subventions, nous suit beaucoup dans nos projets. C'est vrai que les élus de la mairie de Laval et la mairie de Laval nous aident énormément dans nos projets. Ça c'est clair. Et c'est vrai que la ligne politique, voilà, même si on n'a pas une claire et définie de la GOM 53, c'est vrai que voilà, c'est plutôt officieux qu'officiel. C'est vraiment l'intégration des personnes LGBTQIA+ dans la société, voilà, vers un bien-être, des personnes de la communauté. Et la GOM 53 travaille avec toute personne politique, peu importe son orientation, et aussi avec toute l'association qui justement est enclin à lutter contre les discriminations et à travailler dans ce sens, c'est-à-dire l'intégration.
Est-ce que ça veut dire, au-delà de la mairie, si le département est également à votre écoute, la région? Alors, ça c'est clair, on connaît la réponse, c'est non, mais le département... je pensais même qu'on devrait, sur nos affiches, mettre à la place du logo de la région, dire cet événement n'est pas supporté par la région des Pays de la Loire. Mais bref, je ferme la parenthèse.
Alors c'est vrai que nous avons des interlocuteurs privilégiés au département. Nous avons des interlocuteurs privilégiés qui sont vraiment à notre écoute. Quand je dis à notre écoute, nous, bénévoles et justement administrateurs de l'association, nous avons Nous avons donc voilà certains certaines aides j'ai envie de dire humaines, dans le sens où on va nous aider à monter des dossiers, à nous dire quoi, par exemple commencez plutôt par là, que non, faites pas ça comme ça, faites pas ça dans le même ordre, mais voilà, c'est vrai que le plus gros soutien financier et matériel est vraiment de la mairie de Laval.
D'accord, ok. Mais grand merci pour ce temps d'échange. Donc, nous étions avec Léa Louvrier, administratrice, donc membre du conseil d'administration de la GOM 53, qui est basée à Laval. On te souhaite et on vous souhaite à toutes et à tous, Lavallois et Lavalloises, une très belle soirée. Merci.
Merci beaucoup.
Et au plaisir. Allez, ciao. Bye. Quasar Anzière, on revient dans un instant.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement, pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes, entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse.
Le nouvel édit de Préto. Tendresse et love. Alors, la technique est un petit peu capricieuse parfois, et ça arrive, vous le savez. Donc, les téléphones aussi, les contacts, la radio, tout ça, ça se fait en direct. Donc, nous essayons de contacter notre ami Olivier à Montpellier. Non pas qu'il vive dans une grotte, mais le téléphone, lui, ne passe pas. Donc, je vous propose de faire une nouvelle tentative et on vous attend dans quelques secondes avec Olivier, certainement. Mais pour patienter, un grand classique. Go West, les Pet Shop Boys, 20h44, Quasar Anzière 101.5. Si vous voulez nous réécouter podcast, eh bien vous les retrouvez, ces instants magiques, sur le site radio-g.fr. gay par excellence, les Pet Shop Boys Go West. Alors je suis un peu moins sûr maintenant que le clip avec ces marches au pas de loi, ou plus exactement de troupes russes, soit si du goût de tout le monde, mais bon, on ne sait jamais, hein. Ça peut effectivement nous rappeler, en tout cas c'est un grand classique comme Frankie Goes to Hollywood, évidemment, autre hymne gay. Allez, ça y est, on a brisé le sort qui nous séparait de Montpellier et nous allons justement nous diriger vers le boulevard Pasteur, au local de Fierté Montpellier, pour rejoindre Olivier Vaillé, le président. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à toute l'équipe de Quasar.
Merci. Alors vraiment désolé hein, pour cette péripétie technique, mais on y arrive quand même. Tu n'es pas dans le froid, dans la pluie là-bas à Montpellier. Quel temps d'ailleurs actuellement à Montpellier?
Il fait un petit peu frais, mais ça va. On a eu on a eu un été exceptionnel, on prétend génial.
La comédie, la Canourgue, Saint-Roch, tout ça, c'est encore vivant, c'est pas sous la neige, donc on en profite, quoi.
C'est pas sous la neige, non, ça arrive rarement chez nous. Hein.
Ah, c'est arrivé, hein, c'est arrivé. Moi, je me souviens d'un mois de janvier où il y a eu quelques flocons quand même, mais bon, bref, dans les années 2000. Et voilà, ça avait des conséquences fâcheuses dans certains quartiers. Bref, alors...
Ah, on n'a pas l'habitude.
Non, ça c'est vrai. Mais Angers, c'est pareil. Hein. Dès qu'il y a deux flocons, ils sont tous perdus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Bien, alors, on va découvrir avec toi et grâce à toi, Fierté Montpellier. C'est une association qui a été créée. Quand exactement?
Elle a été créée le 4 avril 1995, hein, suite à la première petite Pride qui avait lieu en 1994. Mm-hmm. Différents collectifs ont essayé de se rassembler avec, entre autres, un petit peu ACT UP, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, oui, et le CGL de l'époque, mm-hmm, et donc l'association Lesbian and Gay Pride Languedoc-Roussillon est née à ce moment-là, en 1995. Ouais. Donc, presque 30 ans désormais.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà.
Presque comme nous, mais nous, on a quelques mois d'avance sur vous, mais c'est pas tellement plus non plus. Mais bon, bref, nous, on a atteint les 30 ans, on les a passés le 4 octobre dernier. Mais bon, là, tu as évoqué le CGL, bon, qui a mal fini hein, en 2000 et qui a fermé. Mais bon, La Lesbian and Gay Pride, puisque c'était le nom à l'époque, a bien été créée, et puis avec des personnalités comme Fabienne Larivière et d'autres, hein, qui au fur et à mesure ont fait que la marche de Montpellier soit un événement dans les marches important et avec beaucoup de monde. Donc, vous êtes une association historiquement basée sur l'activité et la préparation de la marche, mais ça n'a pas été que ça, et vous ne faites pas que ça, évidemment.
Non, au fur et à mesure des années, en fait, l'association s'est développée. Quand il y avait encore le CGL, les actions étaient un petit peu plus, on va dire, conviviales. Mm-hmm. Et depuis la disparition du CGL en 2000, donc ça va faire 24 ans presque, c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fonction des besoins et des éléments, l'association a développé diverses activités, que ce soit des actions de prévention, contre les IST, le VIH, SIDA, avec les participations, entre autres, aux événements du 1er décembre, puis aussi des actions pour le 17 mai, et puis par la suite, via différentes, comme un petit peu tous les centres gays et lesbiens, on s'est divisé sur différents pôles. Donc à l'heure actuelle, nous, on fonctionne avec donc un pôle santé, on travaille en partenariat avec AIDS et ENIPS. Mmh. ENIPS vient de faire des soirées de dépistage gratuit au sein de notre local, et ils font aussi de l'accueil psychologique avec un psychologue bénévole. Mmh. On a un pôle demandeuse d'asile LGBTQI+, donc c'est un pôle qui a toujours un petit peu existé, mais qui, depuis que moi je suis arrivé dans l'association, c'est un petit peu plus structuré avec un petit peu de formation auprès d'associations comme la CIMAD et puis un petit peu de formation au CESEDA, de manière à essayer d'accompagner au mieux les demandeurs et demandeuses d'asile dans le cadre de leur parcours, que ce soit à l'OFPRA, au CNDA ou dans la dédublinisation. Est-ce que, puis on a un pôle. Attends,
excuse-moi, oui. Mais juste une question. Est-ce que vous notez là actuellement, depuis quelques mois, peut-être comme nous et d'autres centres, le fait que les demandeurs et demandeuses sont de retour véritablement et qu'on est presque à des chiffres d'avant Covid?
Alors c'est un petit peu compliqué dans le sens où pour moi, pour Fierté Montpellier Pride, avant Covid, le pôle au maximum avait 2 ans et donc le temps de faire connaître cette activité auprès des associations, des autres associations comme la CIMAD, ou de les faire connaître auprès du SCADA ou de la préfecture, de manière à orienter le plus vite possible les demandeurs et les demandeuses d'asile dès le début de la demande vers nous. Ça a mis du temps. Par contre, c'est vrai que on atteint cette année un chiffre assez imposant pour une structure comme la nôtre avec uniquement 2 bénévoles qui gèrent le pôle demandeur et demandeuse d'asile. On a eu cette année 60 bénéficiaires tout au long de l'année.
Ouais, c'est une file active importante.
Voilà, en sachant qu'on a parfois des bénéficiaires qui sont flottants entre plusieurs exercices.
Oui.
Mais après, on a quand même des résultats qui sont plutôt... on aimerait toujours faire mieux. On aimerait réussir à pouvoir faire en sorte que tout le monde soit accepté.
On a bien senti le durcissement. Voilà.
On a bien senti le durcissement. On a bien senti que, de toute façon, que l'apport de la preuve de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, c'est toujours quelque chose de très difficile à apporter à l'OFPRA, qu'il y a toujours un petit peu d'une forme d'ethnocentrisme de la vision de ce qu'est l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre selon le biais occidental parfois. Et donc on a très peu d'acceptation au tout début, mais on réussit à avoir de bons résultats généralement, soit à la CNDA, soit lors des deuxièmes demandes, puisque à ce moment-là, les demandeurs et demandeuses d'asile ayant passé plus de temps ont potentiellement eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'avoir plus de témoignages qui leur permettent d'obtenir la protection de la France.
D'accord. Voilà. Alors, donc, d'autres pôles aussi?
D'autres pôles, on a aussi un pôle trans qui est animé depuis plusieurs années par des personnes concernées. Avec tous les conseils qu'on peut avoir, avec là il y a un flyer sur le binding qui a été créé, il va y en avoir un sur le packing, et où on essaie d'avoir un espace convivial et safe pour que les personnes puissent venir poser des questions, parler de leur transition, voire avoir des liens vers des praticiens et praticiennes safe, et on travaille avec ça énormément avec AIDS sur ce point de vue-là, puisque on a la chance à Montpellier d'avoir eu la création d'un centre de santé communautaire, le SPOT, et qui justement permet d'offrir un ensemble de soutien divers et variés qui aide énormément la communauté sur ce point-là.
Alors, il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de vos activités et politiquement, soutien, ville, région, département?
La ville et la région sont très en soutien. Le département, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas forcément leur principale compétence. Eux, ils sont plutôt à la limite sur l'aspect culturel. Et nous, c'est vrai que on a une marche qui est militante revendicative. On fait d'autres choses à côté, mais on touche pas forcément les éléments qui les intéressent en soi ou qui peuvent pouvoir justifier de subventions. Mais on essaie un petit peu de les tirer. Pour avoir quelques sous, parce qu'ils doivent aussi, les héroïtés sont aussi LGBTQI. On a la chance à l'heure actuelle d'être dans une ville qui justement est en soutien et parfois essaie d'aller au-delà de ce que nous parfois on fait. Ils ont été signataires de la charte de l'autre cercle. Il y a énormément de volonté. Mais nous on souhaite continuer et profiter de ces éléments pour faire en sorte que nos revendications aillent plus loin et qu'on fasse de notre ville et de la métropole de Montpellier un véritable espace pro-diversité, safe. Ouais. Voilà.
Ce qu'il faut quand même expliquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas Montpellier, c'est que depuis l'arrivée comme édile de Michael de la Fosse, vous êtes quand même une des rares villes, sinon la seule, où effectivement l'Arc de Triomphe qui est juste en face le Pérou, quand la marche démarre, il y a des banderoles un peu partout aussi dans la ville de « On vous aime » sur des couleurs, le drapeau LGBT. Donc quand même, hein, je veux dire, le jour où toutes les villes le feront, on en prendra de la graine quoi, et on sera content finalement.
C'est le slogan Montpellier t'aime qui est repris chaque année par la ville de Montpellier, qui est simple. Nous, c'est vrai qu'on a des slogans lors de nos marches qui sont généralement beaucoup plus revendicatifs ou beaucoup plus percutants. Oui. L'année dernière, c'était Uni pour ne pas crever. Mais voilà, le slogan, enfin le mot de la ville, oui, est très bien aussi. C'est reconnaître qu'une ville aime la communauté LGBTQ+.
Oui, et puis c'est affiché. C'est
essentiel.
Voilà, c'est affiché.
Voilà.
Mais un grand merci, Olivier. C'était Olivier Vaillé, le président.
Merci à vous. merci à toute l'équipe de Quasar.
Depuis le temps qu'on devait.
On a réussi à le faire.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Bon, je t'embrasse, Olivier. À très bientôt. Ciao.
À bientôt. Au revoir.
Allez, très vite, avant de nous séparer, nous rejetons un petit coup d'œil sur l'agenda. Les moments forts à ne pas oublier et ne pas louper en novembre 2023, en ce beau mois pluvieux. Eh bien, vous notez, demain soir, c'est la soirée anniversaire des 30 ans avec le vernissage des expositions sur l'homoparentalité, la santé, la vie affective et le droit d'asile. Et puis le mercredi 22, vous notez un spectacle. Alors, les places sont à réserver. Allez-y vite, parce que ça part et il faudrait tout de même pas que vous loupiez vos places. Donc c'est à 20h le 22, mercredi 22 novembre, les 30 ans de Quasar, une soirée mais deux spectacles, la salle Claude Chabrol à Angers. D'abord un spectacle musical The Last Drag Show, et si c'était la dernière fois, un spectacle festif mais militant aussi par la compagnie Broadway French. Et puis ce sera suivi d'un drag, show drag spécial 30 ans avec Ladies Gust, Chlamydia, Sun, Fragile de France et Mama Queen, tout est dit. Alors, on note quand même, pour en terminer, le mercredi 29, une rencontre sur la thématique Bi et Pan avec l'association Bi Cause. Ça sera à 14h. Sera avec projection de documentaires, discussion, présentation du rapport d'enquête sur la biphobie et la panphobie. Vous m'en direz tant. Bon, bah c'est comme d'habitude, finalement, une heure, ça passe tellement, tellement vite. Un grand merci à Marianne Souchon, la présidente du centre LGBTI du Poitou, à Léa Louvrier, administratrice de la GOM 53 à Laval, et puis à l'instant d'Olivier Vaillé, président de Fierté Montpellier Pride. On vous souhaite de passer 15 jours très agréables et chauds au cœur. Protégez-vous, faites les fous et les folles. Et nous, nous nous retrouvons dans 15 jours. Ah, je pense qu'on parlera un peu 30e anniversaire. Grosse bise et très belle soirée sur Radio G 101.5. Bye.
Radio G 101.5 FM. Radio-G.fr.